de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Selon OIT, 1,6 milliard de travaux informels sont menacés de disparition. L'Indonésie continuera de remplir des contributions financières à l'OMS. COVID-19 terminé en juin. Selon BKPM, l'économie pourrait se redresser au troisième trimestre. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a accueilli Bali comme l'île la plus populaire du monde. Le vice-président a déclaré que le gouvernement prépare 6 mesures d'atténuation dans le secteur du travail. Considérées comme efficaces dans le traitement du COVID-19, les États-Unis souhaitent une production de masse de remdesivir. Voici le bulletin complet. L'Organisation internationale du travail, OIT, affirme que 1,6 milliard de travailleurs du secteur de l'économie informelle mondiale sont menacés de perdre leurs moyens de subsistance et leur bien-être en raison de la diminution des heures de travail dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19. Dans une déclaration écrite reçue à Jakarta jeudi, l'OIT a déclaré que le nombre représentait près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale. Le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, a déclaré dans le communiqué que parallèlement au développement de la pandémie et de la crise de l'emploi, la nécessité de protéger les plus vulnérables devenait de plus en plus pressante. L'Indonésie continuera de remplir des contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et d'autres organisations relevantes des Nations unies qui sont considérées comme des étapes importantes pour lutter contre la pandémie de COVID-19. La secrétaire de la Direction générale de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Anita Lydia Luhulima, lors d'une session de séminaire en ligne sur la diplomatie multilatérale indonésienne au milieu du COVID-19, a déclaré jeudi à Jakarta, comme support tangible à l'OMS, l'Indonésie ne suspendra pas le paiement des contributions pour l'année 2020. Selon Anita, la contribution que l'Indonésie avait déjà payée d'un montant de 34,8 milliards roupias à l'OMS pour 2019 a en fait apporté de plus grands avantages au peuple indonésien grâce à un programme d'activité mené au niveau national par le ministère indonésien de la Santé. En particulier dans la crise de la santé actuelle, l'OMS devrait être un chef de file ainsi que le principal partenaire de l'Indonésie dans la gestion de l'épidémie de COVID-19. Le chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Bahlil Lahadalia, est optimiste quant à la reprise de la croissance économique au troisième et quatrième trimestre si la pandémie COVID-19 se termine en juin. Bahlil Lahadalia, dans le programme d'évaluation de l'intérêt du marché organisé par le ministère des Travaux publics et du Logement public à Jakarta, a reconnu jeudi, pour le deuxième trimestre, la croissance économique de l'Indonésie pourrait diminuer en raison de l'impact négatif de la pandémie COVID-19. Mais il reste optimiste que la croissance économique au premier trimestre de cette année est toujours supérieure à 4%. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative accueille Bali pour être nommée l'île la plus populaire au monde par la célèbre start-up de voyage d'Allemagne, Tourlan. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Vishnu Tama Kusubandio, a déclaré jeudi que la stipulation motiverait davantage l'Indonésie à développer de nouveau Bali, en plus d'augmenter le tourisme balinais pour être plus convivial et durable. Tourlan, le 8 avril 2020, a publié les résultats de ses recherches, dont l'une a fait Bali l'île la plus populaire du monde. La pandémie de COVID-19 a mis l'Indonésie dans une situation de crise sanitaire qui a affecté les secteurs économiques et sociaux. La véritable menace de l'impact de cette épidémie est une vague de licenciements, augmentant ainsi le chômage. Le gouvernement essaie également d'empêcher la cessation d'emploi et le logement des travailleurs non rémunérés. Répondant à cela, le vice-président Ma'ruf Amin a été cité par Sindonews du réseau social Ma'ruf Amin vendredi 1er mai, disant qu'il y avait 6 étapes pour atténuer l'impact de COVID-19 sur le secteur de l'emploi. Parmi ceux-ci, la relance économique ne concerne que les entreprises qui s'engagent à ne pas mettre fin à l'emploi. En outre, le gouvernement a préparé un programme qui a allégé 56 millions de secteurs formels, des filets de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur informel et la carte des travailleurs pour les travailleurs victimes de licenciement, augmenter les programmes à forte intensité monétaire et la protection maximale des travailleurs migrants. Cependant, le ministère de la main-d'œuvre a élaboré un programme à forte intensité de main-d'œuvre pour les travailleurs licenciés. Les États-Unis, à travers sa société biopharmaceutique Gilead Sciences Incorporation, prévoit de produire en masse du remdesivir, qui est considéré comme efficace dans le traitement de la maladie COVID-19. Le plan impliquera des partenaires internationaux. La société prévoit toujours de produire plus d'1 million de remdesivir en décembre et prévoir d'en produire plusieurs millions en 2021. À la fin du mois prochain, Gilead a déclaré d'avoir estimé qu'il avait produit suffisamment de médicaments pour traiter plus de 140 000 patients atteints de coronavirus 2019 ou COVID-19 et prévoyait de faire don de l'approvisionnement en médicaments à l'hôpital. Le PDG de Gilead, Daniel O'Day, lors d'une téléconférence avec des analystes cités par Reuters vendredi 1er mai, a déclaré qu'il y avait un grand sentiment d'urgence ici. Il a déclaré que la Food and Drug Administration, FDA, pourrait délivrer une autorisation d'utilisation d'urgence pour le remdesivir, mais Gilead a également demandé l'approbation du règlement standard du médicament. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix d'Indonésie, Jakarta. Cher ami, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de la ville Palu, Sulawesi Central. Le gouvernement de la province Sulawesi Central dispose désormais d'un laboratoire de réaction en chaîne par polymérase, PCR, pour examiner les échantillons des couvions prélevés sur des résidents signalés comme infectés par le virus corona ou COVID-19. Avec l'existence du laboratoire PCR, la régence et les gouvernements des villes à Sulawesi Central n'attendront pas plus d'une journée des résultats des tests des couvillonnages de leurs citoyens comme auparavant, car les écouvillons doivent être envoyés au laboratoire de Makassar, Sulawesi Sud. Le chef du bureau de la santé de Sulawesi Central, Reni Lamajido, a déclaré jeudi dernier que le laboratoire pouvait vérifier jusqu'à 26 échantillons de coton-tige par jour. Sulawesi Central est maintenant la deuxième province de l'île Sulawesi à pouvoir tester des échantillons de coton-tige via la méthode PCR selon la procédure standard d'exploitation SOP du protocole de surveillance COVID-19. Ensuite, l'info de la régence Temanggung, Java Central. La régence Temanggung, Java Central a remporté la première place du prix de développement régional 2020 pour la planification et la mise en œuvre du développement au niveau de la régence. Le régent de Temanggung, M. Al-Hadzik, a déclaré jeudi dernier que le prix avait une signification importante pour être plus conviant dans le développement de la régence Temanggung à l'avenir. Cependant, le chef du bureau régional de développement de Temanggung, Ripto Susilo, a déclaré que les indicateurs évalués dans le cadre du prix de planification du développement régional étaient le document de planification du développement, puis les résultats de développement qui avaient été obtenus et les innovations qui avaient été réalisées. La dernière info est venue de la ville Salatiga, Java Central. La rue General Sudirman Salatiga, Java Central a été transformée en un marché qui gardait une distance entre les commerçants et les jasteurs. Cela a été fait pour empêcher la propagation et la transmission du virus corona COVID-19. Le maire de Salatiga, M. Yulianto, a expliqué que pour organiser le placement de 890 étals en fonction du nombre de commerçants, Yulianto a mis en place un système de groupe. Chaque groupe de 50 commerçants est coordonné par une personne nommée à la présidence du Cercle des Amis. Le président du Cercle des Amis est alors responsable de l'ordre de la discipline de ce même commerçant en appliquant la distance, en portant des masques et en se lavant les mains. Yulianto a déclaré que le marché avec un modèle comme celui-ci n'est pas seulement pour un ou deux jours, mais que la longue période de temps n'est même pas déterminée. Par conséquent, il doit y avoir une coordination attentive et des relations communautaires avec leurs dirigeants respectifs. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Serge Talk, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée nationale de l'éducation le 2 mai. 2 mai 1889, l'anniversaire de Ki Hajar Dewantara célébré comme la Journée nationale de l'éducation. La Journée nationale de l'éducation est synonyme de la figure du père de l'éducation nationale, à savoir Raden Mas Suwardi Suryaningrat ou mieux connu comme Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara connu pour avoir osé opposer au gouvernement politique de l'éducation néerlandais à ce moment-là, ce qui ne permet aux aux enfants nés aux Pays-Bas ou les riches qui peuvent obtenir en banque d'éducation. Sa critique contre la politique du gouvernement colonial a lui fait être exilé aux Pays-Bas. Ensuite, il a fondé un établissement d'enseignement appelé Taman Siswa après le retour à l'Indonésie. Il a été nommé ministre de l'Éducation, l'Enseignement et de la Culture indonésienne dans le premier cabinet de la République d'Indonésie. Pour ses services dans le domaine de l'éducation, il a obtenu le titre de Père de l'Éducation d'Indonésie. Sur la base du décret présidentiel numéro 305 de 1959 du 28 novembre 1959, l'anniversaire de Kejar Dewantara, qui est daté du mai, est signé comme la Journée nationale de l'éducation. L'autre information est sur Cutnya Din, désigné comme le héros national le 2 mai 1964. Cutnya Din a lutté contre les Néerlandais pendant la guerre d'Aceh avec Tengku Umar, qui est aussi son mari. Tengku Umar est mort quand il a attaqué Malabo le 11 février 1899, de sorte que Cutnya Din a lutté seul à l'intérieur de Malabo avec ses troupes. Cutnya Din était déjà vieille et malade, ses troupes ont été appelées Panglaut à rapporter son existence. Elle a été finalement été arrêtée et amenée à Banda Aceh. Là, elle a été traitée et guérie. Sa présence agite l'esprit du peuple d'Aceh. Cutnya Din continue à raviver l'esprit des combattants d'Aceh qui n'ont pas été capturés. Par conséquent, Cutnya Din est isolé à Sumedang, Java West, jusqu'à sa mort le 6 novembre 1908 et a été enterré à Montagne Puyuh, Sumedang. Cutnya Din est désigné comme un héros national de l'Indonésie le 2 mai 1964, basé sur le décret présidentiel numéro 106 de 1964. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec Nelson Mandela a gagné l'élection le 2 mai 1994. Le 2 mai 1994, Nelson Mandela a remporté les premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Ceci est la victoire de Mandela après avoir été emprisonné en 1964 et 1990. Il a été lutté contre l'égalité des droits avec les Blancs. Il est aussi la victoire des Noirs d'Afrique du Sud après avoir été victime d'intimidation dans le système de l'apartheid. Environ 23 millions de voix, le Congrès national africain, ANC, de Nelson Mandela a remporté 62,6% des voix. Et le plus proche rival du Parti national, UNP, le président sud-africain, F.W. de Klerk, gagnant 20,4% des voix. Et le Parti de la Liberté Inkatha ou IFP, dirigé par Mangosuthu Buthelezi, qui représente la plus grande tribu dans ce pays, a gagné 10,5%. Nelson Mandela a gagné le prix Nobel de la paix en 1993. Il est mort le 6 décembre 2013. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme, ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bunga terbang. Dapat cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga. Selamat tinggal kasih telah pergi selamat.
Voilà la chanson de Ahmad Dhani, dont le titre est « Bunga terakhir » ou en français « La dernière fleur ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Et la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en petit titre, le ministère du tourisme et de l'économie créative facilite les artistes culinaires dans Food Startup Indonésie. Le ministère du tourisme et de l'économie créative, l'agence du tourisme et de l'économie créative, aide les acteurs économiques créatifs à développer des modèles commerciaux à travers une plateforme pour les sous-secteurs culinaires, à savoir Food Startup Indonésie FSI 2020. Le directeur par intérim de l'accès au financement du ministère du tourisme et de l'économie créative, Hanifah Makarim, dans sa déclaration à l'agence de presse Antara, a expliqué mercredi, Food Startup Indonésie 2020 est un programme culinaire pour filtrer les participants dans le développement de modèles d'affaires culinaires pour rencontrer des investisseurs et des praticiens culinaires. Hanifah a déclaré qu'il voulait aider les praticiens culinaires au milieu d'une pandémie afin qu'ils puissent se développer, non seulement en tant que micro-entreprise, mais en tant qu'entreprise culinaire indonésienne qui était l'hôte dans leur propre pays et même dans le monde entier. Hanifah Makarim a expliqué qu'au milieu de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont été touchées. L'un des impacts les plus importants étant le secteur du tourisme. Dans le tourisme lui-même, il existe des entreprises dérivées qui soutiennent, par exemple, la gastronomie comme les restaurants aux souvenirs. Donc, il prépare plusieurs programmes pour aider les acteurs économiques créatifs culinaires en poursuivant la mise en œuvre de Food Startup Indonesia, FSI 2020. Ce programme devait à l'origine avoir lieu des roadshows dans plusieurs villes, mais en raison de la pandémie, ce programme a été mis en œuvre en ligne. Selon Hanifa, l'accueil des praticiens culinaires auprès du public à l'égard de Food Startup Indonesia 2020 a été très enthousiaste. Cela a été prouvé par les participants qui se sont inscrits plus que le quota prévu. Les quotas sont disponibles pour 1000 participants, mais les inscriptions ouvertes au public du 20 au 28 avril 2020 ont réuni 1300 participants. Les participants obtiennent des outils numériques sous la forme d'une éducation en ligne en accès libre pour développer leur entreprise, telles que la formation d'écosystèmes, l'ouverture de l'accès aux installations, le soutien du gouvernement et l'accès aux sources de financement. Après avoir traversé un certain nombre de processus de sélection, 100 participants sélectionnés auront le droit de participer gratuitement à l'activité Demo Day Food Startup Indonesia 2020 en juillet 2020. Hanifa Makarim a également expliqué qu'il existe plusieurs autres programmes pour les acteurs économiques créatifs, par exemple l'assistance gouvernementale d'incitation BIP, entrée en vigueur la troisième année. L'aide gouvernementale incitative sera lancée au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mai 2020. Cette année, l'aide gouvernementale incitative est accordée à 5 secteurs tels que la mode, l'artisanat, l'animation, la vidéo et le tourisme. L'aide gouvernementale d'incitation provenant du budget de l'État peut être utilisée pour le fonds de roulement. Des exemples de fonds de roulement pour une entreprise culinaire peuvent être utilisés pour acheter de grandes machines à four, du matériel d'emballage et des matières premières, ainsi que du fonds de roulement lié à l'entreprise. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous venez d'écouter la chanson de Yura Yunita et Glenn Fredly, dont le titre est Cinta dan Rahasia, qui signifie l'amour et le secret. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la colline Banyon à Trenggalek en province Javaès. Trenggalek, qui est situé à environ 200 km de Surabaya, a une attraction touristique complète, allant des plages, des grottes à la nature montagnarde. L'une des attractions à visiter est la colline Banyon, située dans le village Bidoro, district Gandusari, Trenggalek. La colline Banyon, située à une altitude de 1175 mètres, offre de belles vues sur le lever et le coucher du soleil. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nature et qui veulent vous gâter les yeux, visiter la colline Banyon peut être votre destination touristique. Dans cette région de la colline Banyon, vous pouvez profiter de quatre beautés naturelles à la fois à des moments différents. À partir du soleil levant, de la terre au-dessus des nuages, du cocher du soleil et du pays des étoiles. Le lever du soleil apparaît vers 5h30, temps d'Indonésie occidentale. Le pays au-dessus des nuages peut être apprécié à partir de 5h jusqu'aux 8h. Avec l'étendue des nuages qui a recouvert la zone entourant cette colline, la vue de cette colline semble très exotique le matin et l'après-midi. Pour assister à la beauté du lever du soleil, il faut bien sûr du beau temps. Le soleil levant sur la colline Banyon est si beau. Le soleil apparaîtra entre les montagnes et les collines du côté est de la région Trenggalek. Une fois satisfait, vous apprécierez le lever du soleil. Vous serez immédiatement séduit par la beauté des nuages qui recouvrent les habitants et les collines. L'épaisseur de ce nuage dépend des conditions météorologiques. Lorsqu'il pleut la nuit, le brouillard ou les nuages sont très épais, comme s'il était au-dessus des nuages. Mais si le temps est ensoleillé, cette nuit-là, le brouillard qui apparaît est généralement mince, mais la vue sur les collines du Banyon reste magnifique. De nombreux visiteurs de la colline Banyon profitent du charme du pays au-dessus de ces nuages pour prendre des photos. En outre, vous pouvez également ajouter au plaisir de l'atmosphère de la colline Banyon en commandant une variété de boissons chaudes dans des étals autour du sommet de la colline Banyon. Si le charme sur la colline Banyon le matin fait toujours défaut, vous pouvez également profiter de la beauté du coucher de soleil. Vous pouvez regarder le coucher du soleil à cet endroit vers 17h30. Ensuite, la nuit, vous pouvez toujours profiter d'une autre beauté naturelle, à savoir les paillettes de millions de lumières dans la colonie qui ressemblent à des étoiles. Pour se rendre à la colline Banyon, qui se trouve à environ 13 km au sud du centre-ville de Trenggalek, on peut y atteindre en moto ou en véhicule à quatre roues, mais vous devez être très prudent car la route est faite de ciment coulé, outre qu'il y a des pentes abruptes. Pour entrer à la colline Bagnon, vous n'avez pas besoin de payer. Si vous voulez passer la nuit ici, vous pouvez installer une tente sur cette colline Bagnon. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
C'était la chanson de Fidi Aldiano intitulée « Aku Cinta Dia » ou en français « Je l'aime ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur l'Indonésie qui aura un aéroport spatial. L'Indonésie disposera pour la première fois d'un aéroport spatial. L'emplacement choisi pour l'établissement de l'aéroport spatial est Biak, Papouasie. Il y a deux aéroports à construire. Le premier est un aéroport spatial à petite échelle et un aéroport spatial à échelle internationale. Plus tard, l'aéroport spatial à petite échelle sera utilisé pour des essais de petites fusées, tandis que l'échelle internationale sera utilisée pour des essais de fusées de plus grande envergure. Actuellement, le ministère de la Recherche et de la Technologie et l'Agence nationale aéronautique et spatiale, l'APAN, se concentrent d'abord sur la construction d'aéroports spatiaux à petite échelle. Alors qu'à l'échelle internationale, ils essaient de trouver les investisseurs désireux de travailler ensemble dans cette construction. En plus d'être proche de l'équateur, la sélection du village Soukobie en région Biak Numfor dans la province Papouasie comme lieu de développement de l'aéroport spatial est due à sa position d'environ 1 degré de latitude sud et face à l'océan Pacifique directement, ce qui le rend sûr pour être utilisé comme site de lancement. L'APAN prévoit qu'en 2024, la construction de l'aéroport spatial pourra être achevée, bien qu'elle ne soit pas encore parfaite. La construction de l'aéroport spatial a été réalisée pour fournir plus d'espace pour le lancement de fusées à plusieurs niveaux qu'il développait également. Actuellement, l'APAN développe une fusée sonde ou une fusée de recherche atmosphérique qui augmentera progressivement sa cible d'altitude. Cependant, le chef du LAPAN, Thomas Jamaluddin, a déclaré que les avantages de l'aéroport spatial étaient pour la maîtrise de la technologie et le fonctionnement des catastrophes satellitaires. Pour l'avenir, l'Indonésie, avec sa situation privilégiée sur l'équateur, peut fournir des services de lancement de fusées satellites. Jusqu'à présent, l'APAN a contacté plusieurs partenaires internationaux, à la fois des institutions gouvernementales et privées de Chine, du Japon, de Corée, de l'Inde et de Russie. Certains d'entre eux, a déclaré Thomas, ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble, mais plusieurs questions plus détaillées sont toujours en cours de discussion. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi.
Chanson de Andy dont le titre est « Menunggu Kamu » qui signifie « Je t'attends ». Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée « Fajar Bhakti ». « Fajar Bhakti » est une chanson originale de Kroncong. Elle raconte de la belle matinée d'un village situé au bord d'une colline. Quand le soleil se levait, les paysans, hommes ou femmes, petits ou grands, étaient tout prêts à aller au champ. Ils ont heureusement accueilli la matinée. Le soleil n'atténue pas leur enthousiasme à lutter pour le bonheur. Et voici Sri Widadi chantant la chanson de Kroncong intitulée « Fajar Bhakti ».
Tunaikan tugas dan bahagia.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.